débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. Les récents attentats déjoués contre des églises à Villejuif près de Paris montrent que les chrétiens en Occident ne sont pas à l'abri de la violence terroriste qui frappe parfois leurs co-religionnaires qui vivent en Orient ou en Afrique. Des étudiants kényans de Garissa aux paroissiens des églises de Peshawar au Pakistan, en passant par les communautés assyriennes d'Irak, les chrétiens du monde, dès qu'ils sont minoritaires, vivent dans l'inquiétude. L'hostilité, la brutalité dont ils sont les victimes sont-elles en train de s'amplifier et quelles sont les solutions pour assurer leur protection? Les chrétiens sont-ils la cible du terrorisme islamique? On en parle ce soir avec nos deux invités. Je vous les présente tout de suite. Patrick Karam est président de la coordination des chrétiens d'Orient en danger. Vous êtes docteur en sciences politiques et co-auteur du Dictionnaire mondial de l'islamisme aux éditions Plon. Bonsoir à vous, Patrick Karam.
Bonsoir.
Odon Vallée est historien des religions, auteur de nombreux ouvrages dont Les religions dans le monde, c'est aux éditions Flammarion. Vous êtes en ligne, Odon Vallée, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors peut-être pour un premier tour de table, Odon Vallée, on a l'impression que l'organisation État islamique ne supporte rien d'autre qu'elle-même. Est-ce qu'on peut dire alors que les chrétiens sont une cible particulière?
Alors écoutez, d'abord il y a de nombreuses régions du monde où les chrétiens sont en difficulté. Par exemple, en Inde, depuis l'élection d'un gouvernement hindouiste pur et dur, il y a des persécutions contre les chrétiens. En Afrique subsaharienne, il y en a depuis longtemps, qu'elle soit anglophone, qu'elle soit francophone. On a vu ce que ça donnait récemment au Kenya. On a vu aussi en Centrafrique, même si là, les chrétiens ne sont pas toujours totalement innocents. On a vu également au Niger, on a vu au Mali, on a vu des minorités chrétiennes attaquées partout, en Libye également, et puis dans la corne de l'Afrique avec l'Éthiopie. Et puis il y a bien sûr le Proche-Orient, c'est un gros débat, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a à l'heure actuelle un retour aux persécutions religieuses dans tous les domaines. Par exemple, il y a des bouddhistes réputés pacifiques qui persécutent des musulmans en Birmanie ou en Thaïlande. On revient aux guerres de religion entre chiites et sunnites, entre chrétiens et musulmans partout dans le monde. Et on voit qu'en France, des églises catholiques sont menacées. On l'avait complètement oublié. Le premier à avoir pensé à ça, c'est le pape Jean-Paul II, quand il avait critiqué la guerre du Golfe menée par George Bush en disant « les chrétiens vont payer très cher cela ». Puis récemment, le pape François et le président Obama ont pris conscience du danger en disant « attention, ce n'est pas une croisade de l'Occident contre l'islam ». Il faut pas confondre l'État islamique et les djihadistes violents avec l'islam, mais il faut pas être naïf non plus. Incontestablement, des chrétiens, notamment au Proche-Orient, sont menacés, avec un vrai dilemme. Est-ce qu'on les aide à venir en Europe ou est-ce qu'on les aide à rester chez eux? Est-ce que c'est la valise ou le cercueil? Ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de les accueillir du mieux possible chez nous?
Voilà, déjà des questions soulevées intéressantes. Patrick Karam, Daesh à la conquête de Rome, comme le dit son dirigeant Abdou Bakr al-Baghdadi. Est-ce que c'est une menace réelle, selon vous?
C'est une menace, et c'est évident que c'est comme une gangrène qui se répand aujourd'hui. Daesh, je vous signale que Daesh, au départ, combattait le régime syrien, exterminait effectivement quelques populations qui s'opposaient à sa mainmise sur la Syrie et sur les territoires qu'il voulait contrôler, mais c'était un problème qui était uniquement local. À partir du moment où Daesh s'est avancé en Irak, a pu faire tomber Mossoul. Il faut revenir quand même sur la chute de Mossoul. Il était prévisible que Mossoul tomberait. Nous l'avions, à l'époque, annoncé. Nous avions demandé des bombardements. L'Occident, l'Europe, les Nations Unies s'y sont refusées, tout simplement parce qu'ils considéraient que le Premier ministre de l'époque, le Premier ministre, maltraitait ses sunnites et qu'il fallait faire pression sur lui. Le problème, c'est qu'en voulant faire pression sur le Premier ministre, on a permis à Daesh, et ça a été une erreur stratégique importante, de prendre Mossoul, avec les conséquences que l'on connaît. C'est la mainmise sur un armement lourd que servent aujourd'hui des hommes qui ont servi à l'époque de Saddam Hussein et qui ont été mis de côté, écartés, malmenés, qui aujourd'hui prennent leur revanche. C'est les sunnites, les populations sunnites, qui ont été aussi quelque part martyrisés dans cette région du monde, qui aujourd'hui considère que finalement Daesh leur apporte une sorte d'issue de secours. Le problème, c'est qu'il a mis la main, Daesh a mis la main aussi sur de l'argent, sur du pétrole. Et quand Daesh s'est avancé pour prendre Mossoul, les sunnites qui étaient dans l'armée irakienne sont partis.
D'accord.
Et les chiites ensuite sont partis. Ce qui veut dire que nous avons fait une erreur en laissant tomber Mossoul. Le fait que Mossoul soit tombé a rendu Daesh quasiment, a fait de Daesh un problème mondial. J'ajoute, parce qu'il faut être conscient de cette difficulté, c'est que plus nous attendons avant d'intervenir contre Daesh, je parle d'intervention au sol, on n'y coupera pas de toutes les façons. Plus nous attendons et plus Daesh se renforcera. Daesh, c'est vrai, perd du terrain aujourd'hui en Irak. Mais en Syrie, Daesh gagne du terrain. Les autres mouvances comme Al-Nusra gagnent du terrain en Syrie. Aujourd'hui, Daesh occupe 25% de l'Irak, ça n'est pas rien.
Avant d'aborder les solutions, Patrick Karam, et puisque vous évoquez la genèse du problème, est-ce que on peut dire, et je m'adresse à vous, Don Vallée, que l'Occident paye aujourd'hui finalement l'aveuglement, le refus de voir le traitement infligé aux chrétiens d'Orient par l'islamisme intégriste?
Écoutez, je crois qu'il faut être prudent. Il y a eu incontestablement de la naïveté. On n'a pas pris conscience du problème. Les médias en ont très peu parlé pendant longtemps. Il faut aussi voir quelles sont les difficultés concrètes. Par exemple, intervenir au sol en Irak. Bon, personnellement, je suis ancien auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale. Je vois chaque semaine des généraux, des amiraux. Dans les armées françaises et alliées de l'OTAN, on est très partagé sur ce sujet-là. C'est extrêmement difficile. Mais comme on l'a très bien dit, laisser tomber Mossoul aux mains de l'État islamique a été une erreur considérable, car Mossoul est une des villes les plus chrétiennes et les plus anciennement chrétiennes du Proche-Orient. Le seul problème, c'est que c'est des chrétiens divisés entre 11 ou 12 églises, mais laisser tomber Mossoul aux mains de ces sanguinaires soi-disant islamistes, mais en fait, si vous voulez, ce sont tout simplement des gens animés par une violence et un appétit du lucre, ça a été une erreur considérable. Mais il ne faut pas généraliser quand même. En Jordanie, par exemple, pays du Proche-Orient, les chrétiens sont bien traités. En Afrique, vous avez des pays comme le Togo, le Bénin, où il y a eu des élections législatives et présidentielles ce week-end, où il n'y a pas du tout de mésentente, où les chrétiens, les catholiques, les protestants, les musulmans, les vaudous s'entendent bien, on fait dire des prières pour tout le monde. Il ne faut pas généraliser, mais c'est vrai que pour ce qui est du Proche-Orient, il n'y a plus beaucoup de pays où les chrétiens sont en paix.
Patrick Karam.
Oui, je partage en partie l'analyse de Monsieur Vallée. Nous continuons les erreurs. L'erreur a été de laisser tomber Mossoul. C'était une erreur stratégique majeure, mais nous continuons sur cette voie-là. Que faisons-nous aujourd'hui? Nous bombardons l'Irak et la Syrie, et en Irak, nous appuyons les forces chiites, l'Iran aussi s'en occupe de son côté, et les forces druzes, et nous formons un certain nombre de combattants, quelques chrétiens, un millier de chrétiens formés, et qu'est-ce qu'on fait en Syrie? Rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on laisse prospérer un mouvement qui n'arrête pas de croître. En juillet 2014, avant la chute de Mossoul, Daesh, c'était 10 000 hommes. Irak, Syrie confondue. Aujourd'hui, 70 000, 80 000 hommes, au minimum, entre les deux pays. 70 000, 80 000 hommes. Et ça n'arrête pas. Et des Français continuent à aller. Surtout des Français et des Occidentaux, surtout en Syrie, et en passant par la Turquie. Et que fait-on pour empêcher leur passage? Que fait la Turquie? Rien. Que fait la Turquie pour couper les vivres à Daesh? Ça veut dire couper les routes du pétrole qui permettent à Daesh de vivre, d'avoir 1 million de dollars, entre 800 000 et 1 million de dollars par jour. Rien. On a un problème aujourd'hui, c'est que si on ne revoit pas notre politique, c'est-à-dire que si on ne se débarrasse pas de Daesh le plus vite possible, à partir de la Syrie et un peu de l'Irak, mais à partir de la Syrie, que voit-on aujourd'hui? La déstabilisation du Liban qui s'annonce, la déstabilisation de la Jordanie aussi. Que voit-on? Eh bien, l'Occident qui va à son tour subir le terrorisme. On a eu quelques indices, mais ce ne sont malheureusement que quelques indices. Nous allons le subir de plein fouet et de manière massive, parce que nous ne prenons pas ce danger à la hauteur des menaces qu'il recèle aujourd'hui. Il faut en finir et le plus vite possible avec Daesh et Al-Nusra. Il en va de la sécurité de ces peuples, de ces pays du monde, de ces États, des frontières de ces États, mais aussi de l'Europe et de l'Occident.
Alors, et la solution pour vous est manifestement militaire, vous l'avez exposé. On va demander à Odon Vallée ce qu'il en pense. Pour mettre fin à la spirale de cette violence qui s'est mise en place et que vient de décrire Patrick Karam, quelle solution pour vous, si elle n'est pas militaire, comme vous semblez le désapprouver ?
Écoutez, je crois que si vous mettez autour d'une table le 20 généraux et amiraux, vous aurez 20 avis différents. Tout le monde est d'accord pour considérer que c'est extrêmement grave. Vous savez que la France et les États-Unis avaient pensé, il y a un an et demi, intervenir. Et puis en fait, ils ne l'ont pas fait, ils ne sont pas intervenus militairement. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une intervention au sol sera coûteuse en vie humaine. Et que d'autre part, la situation est d'une complexité inouïe. Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples, disait le général de Gaulle. On sait quand on commence une guerre, on ne sait pas comment on la termine. Cela étant, on sait très bien que discrètement, il y a quand même des moyens militaires, des armes qui sont données aux ennemis de l'État islamique. Il y a également des entraînements qui discrètement sont menés à bien pour leur apprendre à se servir de ces armes. Donc on ne peut pas dire ni que la France, ni que les États-Unis soient entièrement, si vous voulez, passifs. Par contre, ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il n'y a qu'un pays en Europe qui fait quelque chose, c'est la France. Et là, on voit bien que la France est quand même un peu isolée, que ça coûte extrêmement cher à notre budget militaire, et que les autres Européens laissent la France intervenir militairement. C'est une lourde charge pour notre pays. C'est aussi ce qui encourage les attentats, car la France est la cible numéro un des islamistes violents, mieux et plus que les États-Unis qui sont loin et difficiles à toucher, mieux et plus qu'Israël qui est en pays en armes et dès que vous sortez une arme, vous êtes abattu au bout de 30 secondes. En France, oui, on peut dire que notre pays est devenu la cible numéro un.
Alors,
de l'État islamique.
Voyons comment réagit Patrick Karam à cette logique de guerre qui est en train de se mettre en place.
Non, c'est toute l'Europe qui est menacée, pas simplement la France, c'est l'ensemble du monde civilisé. Je parle des mondes civilisés. Et pour moi, le monde arabo-musulman fait partie de ces civilisations menacées, ces civilisations qui met au centre de leur projet l'homme. Et eh bien, toutes ces civilisations, toutes nos civilisations sont menacées par Daesh. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Parce qu'il faut être conscient de ce phénomène-là. Plus on attend, et plus Daesh reçoit des Français, des étrangers, des Tunisiens, qui à un moment ou un autre retourneront dans leur pays. Souvenez-vous d'Al-Qaïda, c'était quelques dizaines, une centaine, 200 personnes qui étaient formées et qui étaient allées en Afghanistan, je parle des Occidentaux, je parle des Français en particulier, et qui, quand ils sont revenus, ont pu être contrôlés. Rien de tel avec Daesh. Nous avons aujourd'hui des milliers de Français concernés. Les chiffres du ministère de l'Intérieur parlent de 2500 Français, 500 ici, donc ils sont déjà revenus. Retenez bien ce chiffre. 500 en voie de passage et 500 là-bas. Ce sont des chiffres complètement erronés. Les Français et ceux qui sont sur place vous le disent, les services de renseignement arabes vous le disent, les Français sont beaucoup plus nombreux, les Occidentaux sont très nombreux à combattre, et le problème, c'est qu'à un moment ou un autre, ils devront revenir dans nos pays. Plus on attend, et plus on laisse ces pays se déstabiliser. Et moi, je vais vous lire ce qui va se passer, et qui va nous imposer une obligation d'intervention. C'est que Daesh continuera à semer le trouble dans cette région. La prochaine cible, c'est le Liban. Daesh a commencé déjà à combattre dans un certain nombre dans la montagne libanaise, à faire des incursions. Mais ce ne sont que des prémices d'une grande offensive au Liban. Je le dis aussi pour l'Occident, c'est que nous aurons à affronter des vagues de terroristes. Des vagues de terroristes qui pourront partir d'Irak et de Syrie, mais qui pourront partir aussi des bateaux de réfugiés qui se mêleront donc aux réfugiés à partir de la Libye. Nous avons face à ça un impératif, c'est de mesurer le danger et se dire que plus nous attendons à prendre la mesure de ce danger, et plus nous paierons cher. Est-ce qu'il faut que les Français, les Anglais, les Américains interviennent eux seuls et directement? Je pense qu'il faut une armée arabe. L'Égypte, par exemple, a une armée puissante. Il faut aider cette armée arabe à se constituer. On a vu qu'elle savait, elle pouvait le faire Je ne porte pas de jugement sur la bonne guerre ou la mauvaise guerre au Yémen, mais elle peut se faire, elle pouvait le faire. Il faut qu'il y ait une armée de sunnites capable d'intervenir dans des pays sunnites, et il faut que nous puissions les appuyer puissamment, non seulement au sol, mais avec nos forces spéciales. Si nous ne le faisons pas et si nous n'assumons pas nos responsabilités, nous le paierons très cher.
Alors,
par la suite.
Odon Vallée a exprimé ses réticences tout à l'heure. J'aimerais savoir comment vous envisagez de protéger en France, par exemple, Odon Vallée, les églises qui semblent être devenues des cibles désormais.
Écoutez, il y a 45 000 lieux de culte catholique en France. Le président de la conférence épiscopale française l'a très bien dit, il ne faut pas avoir peur. Il n'est pas question de mettre un policier devant chaque église. Il faut bien avoir conscience que nous ne pouvons pas avoir un risque zéro en matière de terrorisme. Il faut être vigilant. D'ailleurs, on met déjà des affiches vigipirates à la porte des églises pour dire qu'on peut fouiller les sacs, mais ça ne va pas plus loin. Il est hors de question de penser qu'on va empêcher quelqu'un avec une kalachnikov de tirer dans la foule à la sortie de la messe. Ce qu'il faut espérer, c'est que les services de renseignement permettront d'éviter ce genre d'approche violente, mais il faut surtout pas avoir peur. Car avoir peur, dire on ne va plus à l'église parce qu'on risque d'être assassiné, c'est faire le jeu de ces islamistes violents.
Soyons clairs, la cible de Daesh, évidemment c'est des chrétiens, mais pour Daesh, l'Occident est chrétienne. Quand vous avez par exemple, un journal satirique, pour ne pas le nommer, qui publie une caricature de Mahomet, qui paye les pots cassés ? Eh bien, ce sont des chrétiens assimilés donc comme cinquième colonne de l'Occident, en Afrique et en Orient, au Pakistan. C'est eux qui payent les pots cassés. C'est eux qui sont malmenés. C'est eux qui sont brûlés vifs et attaqués et assassinés. Et on le voit bien. Donc pour Daesh, c'est l'Occident qui est une cible, c'est la France qui est une cible. En attaquant la France, il s'en prend effectivement à un pays chrétien. Sauf que en frappant une église, on frappe l'imaginaire. En touchant aux juifs, on frappe l'imaginaire. Donc on donne d'autres signaux, des signaux qui, là, pour le coup, parlent à l'imaginaire. Ce que veut Daesh aujourd'hui, c'est précipiter le monde dans une guerre de religion. Et c'est pour ça que le grand imam d'Al-Tayeb, le grand imam d'Al-Azhar, a fait une conférence mondiale avec une centaine de pays, donc des représentants musulmans d'une centaine de pays, pour dire, attention, nous autres civilisations musulmanes, nous sommes concernés, nous sommes aujourd'hui en première ligne contre Daesh, et nous menons le même combat qu'en Occident. Nous ne voulons pas être mélangés à ce que fait Daesh, et Daesh, maintenant, c'est un ennemi. J'y étais à cette conférence, et pour la première fois, un occidental, moi, j'ai pu prendre la parole devant des représentants d'une centaine de pays pour dire des choses sur les chrétiens d'Orient qu'il y a deux ans, était inimaginable dans ces pays-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons peut-être aussi, dans ce malheur qui nous frappe, une chance, c'est de recoller les morceaux avec la civilisation arabo-musulmane, c'est de faire aussi en sorte que l'islam soit repeigné et que dans l'enseignement de l'islam puisse être vu, y compris chez Al-Azhar. Il y a un mouvement de réforme qui a commencé, il faut l'accompagner et il faut l'aider à devenir mature.
On comprend bien, Patrick Karam, que pour vous, pour combattre la violence des terroristes, la réponse est forcément militaire. Vous évoquez quand même un petit peu d'optimisme à l'issue de cette dernière intervention. Est-ce que dans cette situation dramatique que nous venons d'évoquer, il y a matière à d'optimisme au Odon Vallée très rapidement? Il nous reste à peine une minute.
Un peu d'optimisme. On voit par exemple que Boko Haram commence à reculer militairement dans le nord du Nigeria. Donc on peut penser que de ce côté-là, ça s'améliore un petit peu. Le vrai problème, c'est l'argent, hein, parce que la lutte contre le terrorisme coûte extrêmement cher. Il faudra qu'on puisse augmenter le budget de la défense pour mieux protéger les Français en France et les Français à l'étranger. C'est une œuvre de longue haleine. Ça va être extrêmement dispendieux au point de vue matériel et personnel. Donc, il va falloir donner aux armées et à la police les moyens de protéger les Français.
Bien, allez, restons-en là parce que l'émission touche à sa fin. Merci, Odon Vallée, historien des religions, auteur de Les religions dans le monde aux éditions Flammarion. Patrick Karam, désolé de ne pas pouvoir vous redonner la parole. Président de la coordination des chrétiens d'Orient en danger, votre co-auteur du dictionnaire mondial de l'islamisme. Merci également à Florence Ponce et à Valentin Vaner qui ont aidé à préparer et à produire cette émission. Demain, c'est mardi politique, les députés UMP, ancien ministre Benoît Paruche sera dans ce studio. Mercredi, on se demande si être une femme en politique est un atout ou un handicap. Bonsoir à tous. Un nouveau journal sur RFI dans 30 secondes à peine.